chers collègues, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à vous asseoir, que nous puissions ouvrir cette séance du conseil municipal. Voilà, configuration un peu particulière liée au fait que nous n'avions pas prévu de nous réunir cette date et que la salle du 6 septembre a été mise à disposition du Handball Club de Nangy pour ses 40 ans. Donc voilà. Remarquez, ça tient encore. Hein, absolument, mais imaginez qu'il n'y a pas si longtemps, les réunions du conseil municipal se faisaient dans la salle des mariages. Et il y avait un banc pour trois membres du public. Je vois dans le public notre ancienne directrice générale des services, c'était à ce moment-là qu'on le faisait. Donc ça évitait d'avoir évidemment à trimballer tout ce matériel-là. C'était pas non plus enregistré. Voilà, mais il y a quoi ? Il y a 17 ans, à peine. D'accord, allez. Je propose de ne pas épiloguer. Nous avons un certain nombre de dossiers importants à examiner ce soir et nous avons une élection assez formelle, celle des délégués, grands électeurs qui seront amenés donc à voter pour l'élection sénatoriale le 24 septembre prochain. On y reviendra. Avant d'ouvrir la séance, je vais procéder à l'appel. Donc, je suis présent. Clotilde Lagoutte.
Présente.
Alain Veller est absent, est excusé, a donné pouvoir à Michel Veux. Stéphanie Charret est absente également, excusée, a donné pouvoir à moi-même. Didier Moreau.
Présent.
Marina Descottes-Galli sera absente. André Palancade.
Présent.
Anne-Marie Aulas.
Présente.
Claude Godard.
Présent.
Sylvie Galochet.
Présent.
Roger Cypré.
Présent.
Et je vous propose de le nommer secrétaire de séance. N'oubliez pas d'inconvénients. Samira Bougidi devrait nous rejoindre, je l'espère. Jacob Nalouguna.
Présent.
Simone Jérôme.
Présent.
Charles Murat.
Présent.
Virginie Salitra.
Présent.
Karine Jarry est absente, excusée, et a donné pouvoir à Clotilde Lagoutte. Michel Veux.
Présent.
Daniel Boudet est absente, excusée, a donné pouvoir à Sandrine Nagel. Pascal Lué.
Présent.
Sandrine Nagel.
Présent.
Mehdi Ben Salem.
Présent.
Jean-Pierre Gavarou.
Présent.
Monique de Villene est absente, excusée, a donné pouvoir à Catherine Osdevies. Catherine Osdevies est présente. Serge Saussier est absent, a donné pouvoir à Jean-Pierre Gabarou. Pascal Docker donc sera absent. Et Madame Moilly arrive. Voilà. Parfait. Et Stéphanie Chute est absente et a donné pouvoir à Madame Moilly. Et je salue. Vous étiez dans le même train sans doute.
Je me suis trompé de ça.
Voilà. Je profite pour excuser ceux qui vont nous quitter en cours de séance. Sylvie Galochet qui doit elle-même suivre le conseil municipal de la commune dont elle est secrétaire générale. Donc je pense que juste après le vote pour les grands électeurs, elle nous quittera. Il en sera de même pour Didier Moreau, pour d'autres raisons, hein, qui a donné donc pouvoir à Charles Murat, qui le représentera lorsque Didier Moreau nous aura quittés. Anne-Marie Aulas a donné pouvoir à Virginie Salitra. Sylvie Galochet a donné pouvoir à Simone Jérôme, excusez-moi. Et c'est tout. Non, André Palancade a donné pouvoir à Roger Cypré. Voilà. On devrait, normalement, est-ce qu'on aura bien le quorum avec tous ces... Voilà, on va regarder ça et on verra, puisque Didier Moreau était un petit peu en balance, ce serait dommage qu'on ne puisse pas délibérer lorsque tout le monde sera reparti. Donc, je n'aurais pas reconvoqué à une séance de conseil municipal la semaine prochaine, vous m'en voudriez, je pense. Oui.
Oui, on
est le quorum. Oui, il y aura tout juste le quorum. Alors, s'il vous plaît, les autres doivent en rester. Hein. Et la Claude Godard, l'astreinte, voilà.
Il ne reste pas.
Donc, on va essayer de travailler efficacement, mais rapidement, si vous voulez bien. Donc, nous avons à approuver le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal en date du 29 mai 2017. Je crois que M. Gabarou souhaite la parole, donc je vais lui donner.
Bonsoir, Monsieur le maire. Il y avait deux petites choses simplement. Donc, j'ai simplement remarqué pour le dernier compte rendu, vous avez mis 28 votants. Or, on n'était que 27. Parce que Madame Descôtes-Galli, c'était sa quatrième absence, donc elle ne pouvait pas donner de procuration.
D'accord.
Donc il faudra regarder de manière à ce qu'on soit dans les clous. Quoi.
Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle n'a pas donné procuration ce soir.
Voilà, c'est ça. Parce que c'était la quatrième déjà. Bon oui, je voulais simplement intervenir suite à votre intervention au bout de la dernière fois. Vous m'avez demandé de vous fournir les chiffres qui me permettaient de corriger votre désinformation quasi permanente, et je l'ai fait, je vous ai envoyé les différents tableaux. Pourtant, qui est mieux placé que le maire pour avoir accès à tous les détails des comptes administratifs de la ville? Avec les comptes administratifs, j'ai obligatoirement les mêmes chiffres que vous pour valider nos propos. Il faut parler le même langage et comparer ce qui est comparable en utilisant à chaque fois le même système de calcul. Vous avez beaucoup parlé en cumulé, aussi nous utiliserons ce type de calcul dans nos propos. Dans votre souci de désinformation, vous faites tout pour compliquer la compréhension des chiffres.
Monsieur Gabarou, on va se mettre d'accord. Si vous rappelez encore, si vous utilisez encore le terme de désinformation, qui signifie que je mentirais sciemment à la population,
désinformation n'est pas mensonge.
Alors. Désinformation, c'est un acte volontaire qui consiste à ne pas informer convenablement. Donc je vous prie de bien vouloir rectifier, parce qu'autrement, dans ma grande miséricorde quand même, je vous laisse la possibilité de revenir une troisième fois lors d'une séance sur un débat qui, clairement, pour moi, est tranché. Parce que ce que je vais être amené à vous répondre, M. Gabarou, donc je vais le faire avant que vous continuiez, puisque les chiffres ont été transmis à mon service financier, qui me dit tranquillement, les chiffres sont exacts, mais l'exploitation qui en est faite n'est pas correcte.
Voilà, c'est sur l'exploitation que nous ne sommes pas d'accord.
Oui, mon service financier dit, l'exploitation des chiffres que vous faites n'est pas correcte. Voilà. Donc moi, on pourrait reprendre un débat. Les chiffres sont effectivement les chiffres qui sont rendus publics,
oui,
mais vous avez une façon de les utiliser qui n'est pas correcte. C'est pas moi qui le dis.
Vous parlez pas en cumulé, et la fois d'après, vous ne parlez pas en cumulé. Donc, notamment au niveau des charges salariales, vous ne parlez pas en cumulé. Vous prenez une année qui vous arrange. Par rapport, si vous le faites en cumulé, c'est complètement différent. Donc on arrive, ce sont des sommes qui sont importantes. La dernière fois, vous m'avez dit les sommes, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces sommes? Or, les sommes sont vérifiables et je pense que votre service donc les a vérifiées et ne peut pas les contester. Donc dans ce cas-là, c'est pas la peine que je continue parce qu'on va revenir au même chiffre.
Oui, mais donc ça ne dément absolument pas l'exposé que je vous ai fait en réponse à ce que vous nous aviez indiqué. Alors, on l'a fait sans avoir connaissance des chiffres, parce que j'ai eu quelques difficultés à les récupérer. Mais voilà, ce sont les chiffres que vous trouvez d'ailleurs sur le site des services de la Direction Générale des... la DG, c'est... Enfin bref, allez, je suis fatigué ce soir. Donc il n'y a pas de souci. Simplement, bon, vous les utilisez pour en tirer avantage, pour prétendre finalement que non seulement nous n'aurions pas moins de recettes, mais beaucoup plus. Non, tout ça n'est pas raisonnable.
Voilà. Ah si, vous avez quand même beaucoup plus de recettes. Quand on parle, je pense qu'on ne va pas comprendre le débat.
Je vous en remercie. Très bien. Donc je mets au voix l'approbation du procès verbal qui s'y oppose. Voilà, donc ça fera 6 voix comme d'habitude. Qui s'abstient, qui l'adopte. Donc je vous demande de lever les deux mains lorsque vous avez un pouvoir. Je rappelle.
Ça va faire 21.
Ça va faire 21. Je vous remercie. Je vais vous inviter à m'indiquer si vous avez des commentaires, des questions à poser concernant les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT, concernant les conventions signées par moi-même du numéro 66 au 78. Il n'y en a pas, donc je vais vous proposer d'entamer l'ordre du jour. Donc nous avons deux délibérations importantes, la 93 et la 94, qui concernent le plan local d'urbanisme, puisqu'il est proposé ce soir de faire le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de révision. Après, je dirais, toute une série d'échanges, de débats et de réunions publiques, même si elles n'ont pas eu un succès massif en termes de participation, se sont tenues et ont permis de poursuivre la concertation et d'essayer d'établir un règlement au plus près de ce que nous souhaitions dans le cadre des débats préalables. Alors, pour soulager un petit peu Pascal Huë, je vais me permettre de vous présenter la 93, qui est une délibération préalable qui concerne l'application des nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme au plan local d'urbanisme en cours de révision. Nous avions la possibilité de ne pas les appliquer ou de les appliquer. Et d'une façon assez volontariste, nous allons vous proposer d'appliquer les nouvelles dispositions. L'ordonnance numéro 2015-1174 du 23 septembre 2015 emporte nouvelle codification du livre premier du Code de l'urbanisme, qui s'intitule désormais Réglementation de l'urbanisme, non plus Code de l'urbanisme. Cette recodification est réalisée sans modification de la règle de droit, sous réserve toutefois des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes devenues sans objet. L'objectif est de retrouver des divisions claires et cohérentes, permettant de simplifier l'accès aux normes pour les citoyens. Cet exercice participe à la démarche de simplification administrative engagée par le gouvernement. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit, je lis. Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. C'est ça, parce qu'en général, quand on parle de simplification, c'est pas toujours la simplification qu'il y a derrière, mais bon. Mais puisque mes services me proposent de vous le présenter comme ça... Parallèlement à ces dispositions législatives, le décret numéro 2015-1783 du 28 décembre 2015 emporte recodification du livre premier de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme et modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme. Il préserve les outils préexistants tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les communes et les intercommunalités. Il opère aussi la mise en conformité de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec les dispositions issues des lois suivantes. Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, il s'agit de la loi dite Allure. La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Et la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Les objectifs principaux de cette modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme sont les suivantes. Prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel, renouvellement urbain, mixité, préservation de l'environnement, nature en ville, offrir plus de souplesse et de possibilités aux collectivités pour s'adapter aux enjeux locaux, favoriser un urbanisme de projet donnant plus de sens au règlement du PLU, le règlement sert le projet et non l'inverse, simplifier le règlement et faciliter son élaboration, clarifier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants déjà mis en œuvre par des collectivités. Parmi les évolutions et clarifications apportées par ce décret, se distingue notamment une nouvelle structuration du règlement du PLU, de nouvelles dispositions réglementaires pour le PLU, à savoir une liste clarifiée et exhaustive de 5 destinations et 20 sous-destinations de construction. Rendre facultatifs les articles 6 et 7 par l'implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives, c'est-à-dire qu'aucun article du règlement n'est obligatoire. Fixer une hauteur minimale des constructions pour traduire un objectif de densité, encadrer les zones urbaines et urbaniser par des orientations d'aménagement et de programmation, sans recourir au règlement, classer des secteurs n'ayant pas de caractère naturel en zone à urbaniser, AU, notamment des zones de friche industrielle ou de renouvellement urbain. Délimiter des secteurs où les règles du PLU pourront préférentiellement s'appliquer sur plusieurs parcelles contiguës lors du dépôt d'un permis de construire conjoint. Ensuite, une sécurisation juridique de certaines règles déjà mises en œuvre dans les PLU innovants, c'est-à-dire définir des règles qualitatives dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable, et des règles alternatives pour permettre une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Donc on a vu là quand même la possibilité de tenir compte de situations très précises, et c'est parfois très utile. Différencier les règles entre constructions existantes et nouvelles, selon la dimension des constructions ou entre les rez-de-chaussée et les étages. Imposer une mixité de destination ou sous-destination au sein d'une même construction ou unité foncière. Permettre une opposition claire à des représentations graphiques considérées par défaut comme simples illustrations. Définir la volumétrie et l'implantation des constructions par deux critères principaux, l'emprise au sol et la hauteur. Fixer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable. Clarifier et harmoniser des modalités de calcul, de bonus, de constructibilité, qu'il détermine en référence. Clarifier et harmoniser les modalités de calcul des bonus de constructibilité qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur. Un petit problème de rédaction, mais on y reviendra si ce n'est pas tout à fait clair. Clarifier les outils permettant de limiter le ruissellement. Clarifier les obligations en matière de réalisation de stationnement. Pour les procédures d'élaboration de révision générale en cours initiée avant le 1er janvier 2016, les nouvelles possibilités réglementaires issues du décret s'appliqueront uniquement si une délibération du conseil municipal se prononçant en faveur de l'intégration du contenu modernisé du PLU intervient au plus tard lors de l'arrêt du projet. Sinon, elles s'appliqueront lors de la prochaine révision. En choisissant d'intégrer cette disposition, le PLU de Nangy, notamment, se mettra en cohérence avec la nouvelle réglementation des différents articles du Code de l'urbanisme, autant sur la partie législative que réglementaire, intégrera la nouvelle structuration du règlement, ce qui facilitera la lecture et le contrôle de son contenu au regard des possibilités offertes par le Code de l'urbanisme recodifié et modernisé, intégrera la clarification de certaines dispositions, sécurisera juridiquement l'emploi des règles graphiques, qualitatives et alternatives, sécurisera enfin la définition et la délimitation des zones à urbaniser. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal de décider que sera applicable au PLU de Nangy en cours de révision l'ensemble des articles R151-1 à R151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Voilà, donc un préalable. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? Ou on a la possibilité aussi d'interroger nos deux experts qui sont présents dans la salle, Monsieur Gutmann, notre architecte conseil, et Madame Larminier, notre directrice du service urbanisme. Ou est-ce que ça vous paraît de bonne aloi ? Bon, ça semblait assez évident que à partir du moment où on a une révision qui s'est beaucoup appuyée d'ailleurs sur les nouvelles règles, bon, autant faire en sorte que notre PLU soit conforme aux nouvelles orientations plutôt que de se référer par un artifice de procédure qui sera juste le fait d'avoir commencé le lancement de nos PLU avant la date fatidique. Donc si vous êtes d'accord, je vais vous proposer d'adopter la délibération qui a un article unique, hein, décide que sera applicable au plan local d'urbanisme de Nangy en cours de révision l'ensemble des articles R151-1 à R151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité, donc nous allons pouvoir adopter la suivante. Nous aurions eu un problème si vous l'aviez rejeté, puisque là, l'arrêt du projet de révision du plan local d'urbanisme s'appuie évidemment sur cette nouvelle réglementation. Alors, avant de l'arrêter, il s'agit bien entendu de faire également le bilan de la concertation, qui est indispensable et que je crois que nous avons essayé de mener le plus convenablement possible. Par délibération du conseil municipal numéro 2015-177 du 14 décembre 2015, la commune de Nangy a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme, définissant les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique. Pour rappel, les objectifs de la révision du PLU sont renforcer les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs de développement durable, les principes issus des textes de la loi dite Grenelle 2, dans les différents documents du PLU, réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de l'énergie, production énergétique à partir de sources renouvelables, préservation, extension et remise en état des continuités écologiques, etc. Assurer la conformité et la compatibilité du PLU avec les autres documents d'urbanisme, STRIF, SPOT, PLH, PDU, SRCE, etc., et intégrer les nouvelles orientations issues des réflexions en cours ou à venir du plan de déplacement urbain. Réaffirmer et identifier les espaces naturels à protéger tout en permettant la création de liaisons entre ces différents espaces pour mieux les mettre en valeur. Redéfinir l'ensemble des outils réglementaires permettant d'affirmer la spécificité du territoire, emplacements réservés, espaces boisés classés, végétaux à protéger, espaces verts protégés, orientation d'aménagement, bâtiments à protéger, etc. Accompagner les actions de densification du territoire, favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain en cohérence avec un projet urbain économe et durable. Favoriser le développement et les aménagements nécessaires à un développement économique équilibré. Prévenir les risques prévisibles et ou technologiques éventuels ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature. Adapter les zonages et leurs règlements aux projets urbains. Redéfinir et mettre à jour les servitudes d'alignement. Conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durable a été débattu en conseil municipal le 13 juin 2016. Le PADD décline 9 orientations générales d'aménagement et d'urbanisme. La première, continuer à jouer le rôle de ville-centre à l'échelle d'un bassin de vie actif et solidaire et de ville-partenaire à l'échelle d'une intercommunalité plus large. Deuxièmement, poursuivre en matière d'habitat pour tous une politique de construction, de maîtrise du foncier et de réhabilitation de l'existant, permettant de préserver la diversité et la cohésion sociale et de garantir les équilibres générationnels. Troisièmement, conforter le maillage utile et nécessaire des services publics et d'activités économiques répondant aux besoins de développement de la commune et du bassin. Quatrièmement, densifier et renforcer l'armature urbaine et paysagère de la commune dans le but de mettre en valeur le patrimoine architectural, de qualifier et de donner plus de visibilité à l'espace public et équilibrer les différents modes de déplacement. Cinquièmement, je crois, favoriser le développement des transports collectifs et intégrer la réflexion autour du pôle gare, structurer et favoriser tous les modes de déplacement, harmoniser la circulation, le stationnement et les déplacements. Cinquièmement, penser le rapport ville-territoire. Sixièmement, pardon, penser le rapport ville-territoire en qualifiant mieux les entrées de ville, en confortant la vocation agricole et les implantations agro-industrielles associées, silos et sucreries, en limitant les extensions et en ménageant de nouvelles lisières urbaines, chemin du tour de ville. Septièmement, donner plus de visibilité à la présence agricole sur le territoire en accompagnant le développement et la diversification éventuelle des activités culturelles et en valorisant le patrimoine des fermes sur un aspect touristique et culturel. Huitièmement, développer une vraie trame verte et bleue à l'échelle du grand paysage propice à la restauration des milieux humides et au développement de la biodiversité. Et enfin, neuvièmement, préserver les ressources naturelles en promouvant des critères de performance énergétique et des équipements de production d'énergie renouvelable. Les objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain sont définis également dans le PADD. Conformément aux articles L103-3 à L103-6 du Code de l'urbanisme, le Conseil municipal a, lors de la délibération du 14 décembre 2015, défini les modalités de la concertation publique permettant d'associer à la définition du projet et tout au long de la procédure les habitants de la commune, les personnes intéressées ainsi que les personnes publiques associées. Cette concertation s'est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du Conseil municipal, à savoir information, articles de presse dans le journal municipal, les journaux locaux, parution sur le site internet, panneaux d'affichage, panneaux électroniques. Concertation, réunion publique ouverte à toute la population, réunion des conseils des sages, conseil local de la jeunesse, du conseil associatif, rencontre de voisinage. Prise en compte des expressions et avis, au registre de concertation ouvert au service urbanisme, avec possibilité de consulter les documents produits au cours de la révision, par courrier et courriel, via un formulaire en ligne sur le site internet de la ville. Processus de transparence, mise à la consultation de tous les documents produits au service urbanisme, mise en ligne des documents produits sur le site internet de la ville. L'ensemble des moyens de concertation est détaillé dans le bilan de concertation. C'est dans ces circonstances que le conseil municipal est appelé à approuver le bilan de la concertation et à arrêter le projet du plan local d'urbanisme, conformément aux articles précités. À cette suite, le dossier du PLU arrêté sera transmis aux personnes publiques associées qui auront 3 mois pour rendre leur avis. L'enquête publique pourra se dérouler courant de l'automne et durera environ 1 mois. Le commissaire enquêteur aura ensuite 1 mois pour rendre son rapport. Une délibération approuvant le plan local d'urbanisme pourrait donc être présentée au vote du conseil municipal en fin d'année 2017. Voilà, donc en raison de la taille des documents, une copie papier a été adressée au président des groupes du conseil municipal et transmise sous format électronique à tous les élus. Voilà. Alors, nous avons de nouveau avec nous, donc Émilie Larmounier et Serge Gutmann, pour répondre à des questions s'il y avait encore avant de délibérer. On a même du matériel s'il faut revenir et examiner les plans. Donc c'est à votre volonté. Pouvez-vous qu'on y revienne ou pensez-vous que on a déjà vu, revu et re-revu? D'accord. Alors, écoutez, dans ces conditions-là, je vais vous proposer d'approuver la délibération qui comporte 3 articles. Article 1 approuve le bilan de la concertation afférente au plan local d'urbanisme. Article 2 arrête le projet du plan d'urbanisme et de la commune de Nangis tel qu'il est annexé à la présente. Et article 3 communique pour avis le projet du plan local d'urbanisme en application des dispositions de l'article L132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme aux personnes publiques associées qui auront donc 3 mois pour émettre un avis. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée à l'unanimité. C'est très important et je tiens à vous en remercier. Je suis désolé, M. Gutmann, vous déplacez pour rien. Mais vous pouvez quand même continuer d'assister à nos travaux si vous le souhaitez. Émilie Larmounier également. Alors, une délibération aussi importante qui a fait l'objet de débats en commission des finances. Il s'agit de l'instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, à compter du 1er janvier 2018. Et je passe la parole pour cela à Sylvie Galochet.
Merci, monsieur Jouet. L'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, codifié aux articles L2333-6 à 16 du Code général des collectivités territoriales, a créé la taxe sur la publicité extérieure, dite TLPE, en remplacement depuis le 1er janvier 2009 de la taxe sur les affiches et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes. Il est proposé d'instituer cette taxe à compter du 1er janvier 2018. Il est donc nécessaire d'en fixer les tarifs et les exonérations éventuelles. Rappel. Les principes de la TLPE, c'est une taxe urbaine, c'est-à-dire une imposition locale annuelle qui taxe les enseignes, les préenseignes et les dispositifs publicitaires visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. Double légitimité, d'abord environnementale, son but est de lutter contre la pollution visuelle en freinant la prolifération des panneaux et en réduisant la dimension des enseignes. Ensuite financière, bien sûr, puisqu'elle constitue aussi une ressource complémentaire pour la collectivité. Les dispositifs concernés par la TLPE. La TLPE s'applique sur les supports publicitaires fixes, c'est-à-dire les enseignes. Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, bâtiment ou terrain, est relative à une activité qui s'y exerce, nom de l'établissement, logo, slogan qui est adjoint au nom et au logo. Dispositif publicitaire, c'est-à-dire tout support qui ne constitue pas une enseigne est susceptible de contenir une publicité, Et enfin, une préenseigne, c'est-à-dire toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Les redevables de la TLPE, eh bien, nous avons l'exploitant du support, le redevable de droit commun. En deuxième rang, nous avons comme redevable le propriétaire. Et enfin, le bénéficiaire du dispositif, qui sera donc un redevable de troisième rang. La TLPE est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la collectivité qui doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition. Les tarifs. La superficie imposable est celle du rectangle, formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image. Les surfaces des différents supports d'un même établissement s'additionnent. Les plafonds des tarifs applicables par la collectivité sont les suivants. En ce qui concerne les enseignes, pour les superficies inférieures ou égales à 12 mètres carrés, 15,40 euros. Superficie supérieure à 12 mètres carrés mais inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 30,80 euros. Les superficies supérieures à 50 mètres carrés, 61,60 euros. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, support non numérique toutefois. Superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 15,40 euros. Superficie supérieure à 50 mètres carrés, 30,80 euros. Dispositif publicitaire et préenseigne, donc support numérique. Superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 46,20 euros. Superficie supérieure à 50 mètres carrés, 92,40 euros.
Ce sont des tarifs au mètre carré. Hein.
Ce sont des tarifs au mètre carré, tout à fait. Il est et ses parents, bien sûr. Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer les tarifs tels que présentés ci-dessus, et ainsi que nous avions évoqué en commission de finances, où vous avez présenté également quatre simulations, si mes souvenirs sont exacts. Non,
ce sont les tarifs réglementaires, hein. Donc ce n'est pas nous qui les fixons. Simplement, nous retenons...
Les bases. Les montants minimums. Les exonérations de TLPE, les exonérations réglementaires. D'abord, les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant les spectacles. Les supports ou parties de support prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'État. Les supports relatifs à la localisation de professions réglementées. Les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle sur un immeuble ou un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce. Les supports ou parties de support dédiés aux horaires et aux moyens de paiement de l'activité ou à ses tarifs, sans limite de superficie cumulée d'un mètre carré. Dans la limite, pardon, de superficie cumulée d'un mètre carré. Sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune, les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. Les exonérations facultatives. Les collectivités ont la possibilité d'exonérer totalement ou partiellement, réfaction de 50%, certains dispositifs. Pour cela, une délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année qui précède la taxation. Les exonérations facultatives sont les suivantes. Exonération totale ou réfection à hauteur de 50%. Les enseignes non scellées au sol si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Les préenseignes supérieures à 1 mètre carré et demi. Les préenseignes inférieures ou égales à 1 mètre carré et demi. Les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux. Réfaction à hauteur de 50% des enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Il est proposé ici présentement aux membres du conseil municipal d'exonérer. Premièrement, de maintenir l'exonération des enseignes de moins de 7 mètres carrés en surface cumulée. D'exonérer totalement les enseignes, autres que celles scellées au sol, dont la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. D'appliquer une réfaction de 50% du tarif pour les enseignes, dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Et ensuite, donc, tout est repris dans le projet de délibération qui vous est joint.
Voilà. Je précise donc qu'ainsi, nous exonérons pratiquement tous les locaux de petits commerces. Ouais, bon, c'est principalement Donc les grandes enseignes, effectivement, qui vont supporter cette charge, on pense que relativement les moyens. Ce que ne dit pas la notice explicative, c'est que avant donc la mise en vigueur de cette taxe locale, il y aura une réunion avec, elle est obligatoire, donc nous la ferons avec donc les commerces, les activités concernées, de façon à ce que tout le monde soit informé et que chacun puisse aussi avoir la possibilité peut-être de réduire un peu la voilure. Puisque toute surface publicitaire est prise en compte, y compris par exemple les drapeaux. Et il va manquer de voir qu'un certain nombre de ont une présence très très fortement marquée. Quelquefois on a des drapeaux, on a des panneaux 3x4 aussi. Voilà. Donc après c'est un choix que peut effectuer l'entreprise, c'est-à-dire dire ben, je paye pour avoir une petite idée de ce que ça peut représenter, puisque on a fait quand même procéder par un bureau d'études à une liste exhaustive de toutes les activités qui pourraient être concernées. Hein. Donc on a une voiture style les voitures Google Maps qui a circulé sur toutes les voies de Nancy et a répertorié donc toutes les surfaces. Et ensuite, avec un travail avec le service urbanisme, a compilé donc à qui appartenaient ces panneaux. Et donc en gros, l'entreprise qui serait la plus taxée, c'est Carrefour. Et qui se verrait donc devoir, dans l'état actuel des choses, une taxe de 8000 euros par an. Voilà. Et on doit exonérer les deux tiers des activités, voilà, toutes les activités qui sont en général de clair, par exemple, ne sont pas du tout concernées par cette taxe. Voilà, quelques petites précisions. Donc on sait exactement, si on reste dans l'état actuel des choses, et si la déclaration est en bonne et due forme, ce que devrait payer Carrefour 8000, Intermarché 4000. McDo à peu près la hauteur d'Intermarché. Ça correspond aussi à sa surface. Donc, McDo est quand même à une présence visuelle très, très prégnante. Donc voilà, on considère à la fois que ce sont des sommes qui ne risquent pas de mettre en péril l'activité, en sachant, je vous rappelle, que les activités commerciales, surtout les grandes surfaces, sont assez peu imposées. Donc, façon aussi de les faire contribuer un petit peu à la dynamique locale. Questions ? Bon, il y avait un avis unanime de la commission des finances. Donc je mets aux voix la délibération qui s'y oppose. Qui s'abstient est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais vous proposer une petite modification dans l'ordre du jour pour que je puisse tenir mes engagements à l'égard des collègues qui doivent nous quitter. Et je vais vous proposer donc de passer à la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants avant d'examiner la délibération 96. Si vous êtes d'accord. Auparavant, je vais passer la parole peut-être à M. Mohamed pour qu'il nous explique un petit peu comment les choses vont se dérouler et surtout comment le décompte des voix va donner lieu donc à l'élection de ces délégués.
Je vous proposerai plutôt de le faire après le vote, comme ça j'ai les résultats et je les emporterai. Je ferai le calcul en direct.
D'accord. Bah, vous ferez peut-être juste les grandes lignes, c'est possible ?
Oui, c'est possible. Hein ?
Vous savez que c'est une élection par liste à la proportionnelle. Ces listes donc peuvent être complètes ou incomplètes. Nous avons en fait 19 délégués à élire, 15 titulaires, 4 suppléants, puisque je vous rappelle que c'est le seul vote en France qui soit obligatoire et que les titulaires élus qui ne se présenteraient pas au moment du vote sans motif valable pourraient se voir condamnés à payer une amende. Je rappelle également que pour que le motif soit valable, il faut qu'il soit communiqué au maire la veille, pour que avec les pièces justificatives. Au plus tard, la veille. Plus tard, le samedi 23, en début d'après-midi, de telle façon que le maire puisse prendre un arrêté qui soit transmis au préfet, modifiant la liste électorale, en disant que le délégué titulaire empêché, il est malade, il est hospitalisé, oui, non, on va éviter les extrémités, monsieur Murat, sera donc remplacé par le premier de la liste des suppléants. Voilà. Si il est malade le dimanche même, eh ben, il n'y a pas de motif valable. Non, voilà.
Bon. Bonsoir à tous et toutes. Donc je vais vous présenter les modalités de calcul pour la répartition des sièges des délégués titulaires et suppléants. Alors il faut savoir que nous sommes dans un cas de figure dans une commune de plus de 1000 habitants et inférieure à 9000 habitants. Ce qui fait que, étant dans la mesure où nous avons 29 conseillers municipaux, nous devons donc élire 15 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. Dans notre cas de figure, il s'agira d'un vote unique. Donc vous voterez une fois, il n'y aura pas de second tour. Et c'est par ce vote qu'on va déterminer le nombre de délégués titulaires et de délégués suppléants. Le calcul va se faire en trois étapes. La première étape, il s'agira de définir le quotient électoral. Alors pour ce faire, il conviendra de prendre le nombre de suffrages exprimés que nous allons diviser par le nombre de sièges à attribuer. Donc pour les délégués titulaires, ça va être, a priori, il devrait y en avoir 27, que nous allons diviser par 15 pour les délégués titulaires. Et pour les délégués suppléants, ça va être 27 divisé par 5. On fera le calcul après le vote. La deuxième étape, il s'agira de attribuer les sièges par liste qui aura été présentée en prenant le nombre de suffrages obtenus par la liste divisé par ce quotient électoral. Et là, on va obtenir un nombre de sièges qui aura été attribué par liste. Mais dans la majorité des cas, c'est très rare que tous les sièges soient attribués en même temps. Il y aura des sièges qui ne seront pas pourvus dans la totalité. Soit il reste un siège, soit il en reste deux. Donc c'est là que vient la troisième étape. Chaque siège restant sera attribué par un calcul individuel. Ce calcul, il est défini par le nombre de suffrages obtenus par la liste, qu'on va diviser par le nombre de sièges qui aura été attribué par le précédent calcul, plus le siège à pourvoir, donc plus 1 automatiquement. Et là, la liste qui aura eu la plus grande moyenne, la plus forte moyenne, aura acquis le siège. Est-ce que j'ai été clair ? Non, mais ce sera plus simple quand on va le faire en direct.
En fait, vous avez deux modes de calcul pour attribuer des sièges sur un scrutin à la proportionnelle. C'est ou à la plus forte moyenne ou au plus fort quotient. Voilà, vous n'avez que deux possibilités de le faire. Et dans ce cas de figure, c'est la réglementation qui l'impose, c'est la plus forte moyenne donc, qui est prise en compte. Vous avez en fait un dispositif qui, favorise les grandes listes, celles qui ont le plus de suffrages, et l'autre qui favorise plutôt les petites. Voilà, c'est comme ça, c'est... Donc là, on est plutôt dans celui qui favorise les grandes. C'est pas moi qui fais la loi, enfin si, de temps en temps. Ça, voilà, donc nous avons deux listes en présence, la liste de l'opposition et la liste de la majorité, voilà, c'est assez classique. Évidemment, la liste de l'opposition est incomplète, on n'a pas le choix. Vous avez donc la liste Nangy-Oxygène, Jean-Pierre Gabarou, Catherine Eusdeviès, Serge Saussier, Rachida Moali, Pascal Decker, Monique de Villene. Et nous avons la liste de la majorité qui est ici. Liste Nangis Solidaire Humaine et Démocratique, Clotilde Lagoutte, André Talencade, Stéphanie Charret, Claude Gollard, Anne-Marie Hollas, Pascal Huet, Simone Jérôme, Didier Moreau, Sylvie Galochet, Michel Veux, Karine Jarry, Roger Cyprès, Sandrine Nagel, Mehdi Ben Salem, Daniel Boudet, Alain Veller, Virginie Salitra, Charles Murat, Samira Boujidi, Jacob Nalouna. Je ne figure pas sur cette liste puisque je participerai au scrutin en tant que sénateur. Ah, j'ai pas le droit de voter deux fois. Ah oui, c'est normal. Alors, je vais avoir. C'est moi qui vais être désigné président du bureau de vote. On va faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que l'urne va être positionnée ici et puis vous viendrez voter à l'appel de votre nom. Ceci très, très clairement pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui voudraient rayer des noms. Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs. Non, le bulletin sera nul. Bon, et ceux qui voudraient effectivement avoir un bulletin nul, de le faire discrètement sans qu'on ait forcément été amené à mettre des isoloirs. Or, si je viens chercher votre bulletin à la table, vos voisins ils vont voir que vous avez quelque chose. Voilà. Non, mais. Comme ça, on a un mode qui respecte le secret du vote. Hein. Voilà. J'ai besoin de 4 membres du bureau qui sont ce n'est pas l'opposition à la majorité, ce sont les plus âgés et les plus jeunes. Bon, il se trouve que les plus âgés et les plus jeunes appartiennent à la majorité. Michel Veux, Simone Jérôme, Samira Boujidi et Virginie Salitra. Voilà. Le secrétaire restant Roger Cyprès. Donc voilà. Les membres du bureau seront appelés à me rejoindre s'il y avait une contestation. Autrement, vous pouvez rester à votre place. Et par contre, pour le dépouillement, donc la plus jeune, c'est Samira ou c'est Virginie, si je ne suis pas indiscret.
Les deux. C'est Samira.
Non, ben c'est Samira qui travaillera. Oui, j'ai compris, je suis un peu. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord. Je vais avoir besoin de la liste des présents avec les pouvoirs. Donc, ceux qui ont un pouvoir actuellement, hein, donc c'est pas ceux qui ont un pouvoir après, doivent avoir deux séries de bulletins de vote. Nous avons Michel Veux, Michel Biou, Clotilde Lagoutte, Sandrine Nagel, Catherine Eusdeviès, Jean-Pierre Gabarou, Rachida Mouali. Donc voilà, dès que vous avez le matériel, vous pouvez mettre dans l'enveloppe où vous voulez, à votre place, en vous promenant, dehors. L'essentiel, c'est que vous reveniez à l'appel de votre nom. Et donc, les collègues qui doivent partir pourront le faire après avoir voté. Mais pas avant. Avant, il y a Émilie Larnier qui les empêchera de sortir.
C'est une sale journée déjà. Pourquoi ?
Voilà, messieurs les membres du bureau, vous voudrez bien considérer que l'urne est vide. Je la ferme. Que je remets une clé au secrétaire et que je garde l'autre. Voilà. L'enveloppe est bien. Est bien scellée. Ah. Est-ce que tout le monde est bien en possession de son matériel de vote? Morgane, il vous reste deux enveloppes, c'est donc conforme. Hein, donc 29 moins 2, ça fera donc bien 27 votants. Est-ce que je peux commencer à appeler les électeurs? Donc Michel Biou qui a donc un pouvoir. Clotilde Lagoutte qui a également un pouvoir. Didier Moreau. À voter. André Palancade. Anne-Marie Hollas, quelque part. À voter. Anne-Marie Hollas, Claude Godard se prépare.
Attention au fil.
Faites attention au fil, pas de chute. À voter. Claude Godard, Sylvie Galochier se prépare. À voter. Roger Cypré. Sylvie Galochier. Roger Cypré, Samira Boujdi se prépare. À voter. Samira Boujidi, Jacob Nalouna se prépare. À voter. Jacob Nalouna se prépare. Simone Jérôme. À voter. Simone Jérôme se prépare. Charles Murat. À voter, Charles Murat se prépare, Virginie Salitra. À voter, Virginie Salitra se prépare, Michel Veu. À voter, Michel Veu se prépare, Pascal Huet. Deux votes pour Michel Veu. À voter. Pascal Lué, se prépare Sandrine Nagel. À voter. Sandrine Nagel qui a un pouvoir, donc deux votes. Se prépare Mehdi Ben Salem. À voter. Mehdi Ben Salem se prépare Jean-Pierre Gavarou. À voter. Jean-Pierre Gavarou, donc qui a deux votes. Se prépare Catherine Esdeliès. À voter, Catherine Devers se prépare, donc Rachida Mouali, les deux ont deux votes. À voter, et Rachida Mouali. À voter, c'est bon, merci. Bien, je vais donc appeler Samira. Faire un petit peu de place. On va remettre le feu sur Lyon. Hop. Bah finalement, j'ai raison. Hop, je vous invite donc à bien compter le nombre d'enveloppes. L'urne est vide. La vider. On en fait toute prévision pour les prochaines élections qui auront lieu dans quelques temps. 2019, les prochaines. Oui. 27 enveloppes, bah donc une ouvre, voilà, l'autre va empiler. Donc, liste Nangy solidaire humaine et démocratique. 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 Liste Nangy oxygène. 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 Liste Nangy solidaire humaine et démocratique. 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 Et liste Nangy solidaire humaine et démocratique. Si vous voulez bien compter les bulletins, mesdames, ont obtenu. Donc, 27 votants ont obtenu la liste Nangy Oxygène 6 voix, la liste Nangy Solidaire Humaine et Démocratique 21 voix. Alors, c'est là que Morgane Mohamed, le magicien, va nous sortir de la machine.
Maintenant que nous avons le nombre de suffrages exprimés, le nombre de suffrages par liste, on va commencer par calculer le quotient électoral. Donc le quotient applicable est 27 divisé par 15, ce qui va nous donner
1,8.
Alors la circulaire du 12 juin 2007 nous demande. Excusez-moi. La circulaire du 12 juin 2007 nous demande d'arrondir ce quotient électoral, donc à l'entier supérieur, ce qui nous fait 2. Donc, la deuxième étape, c'est l'attribution des sièges en divisant le nombre de suffrages obtenus par ce quotient électoral. Donc, 2 et 2, ce qui nous fait 10. Merci. Donc 10,5, soit 10 sièges, parce que c'est le nombre de fois de quotient électoral qu'il y a de sièges. 6 divisé par 2, 3, soit 3 sièges. Donc là, nous avons 13 sièges qui ont été attribués. Donc il est procédé à la répartition du 14e siège. Cette fois-ci, on va remettre le nombre de voix par liste, qu'on va diviser par le nombre de sièges déjà obtenus, plus le siège à attribuer. Donc, 21 divisé par 11, ça nous fait 1,90.
Oui.
6 divisé par 4 nous fait 1,5. Donc, la liste Nangis solidaire humaine et démocratique a eu la plus forte moyenne. Donc, le 14e siège est attribué à la liste Nangis solidaire humaine et démocratique. Ensuite, est attribué le calcul, enfin, on passe au calcul pour l'attribution du 15e siège. Il reste un siège attribué. Donc on va remettre le même calcul, sauf que là, cette fois-ci, Nangis solidaire humaine et démocratique a 11 sièges plus 1, ce qui va faire 12. Donc 21 que nous allons diviser par 12, ce qui nous fait 1,75. Pour la liste Nangis-Oxygène, le calcul ne change pas, on est toujours dans la même hypothèse, qui nous fait 1,5. Donc, le 15e siège est aussi attribué à la liste Nangis-Solidaire, humaine et démocratique. Donc, ce qui nous fait un total de 12 sièges liste Nangis-Solidaire. Excusez-moi d'abréger.
Alors, ce n'est pas la liste. La liste Nangis Solidaire emporte ainsi 12 sièges.
Oui, excusez-moi. Voilà. Et la liste Nangis Oxygène. Non, je me suis trompé.
Et la liste. La liste
3 sièges de délégués utilitaires. Voilà la première répartition. On va faire le même calcul rapidement pour l'attribution des délégués suppléants, ce qui nous fait 27 qu'on va diviser par 5, 5,4 que nous allons arrondir à 6. Donc, la liste A, Nangis solidaire, 21 divisé par 6. Qui nous fait 3,5, soit 3 sièges. Et la liste 6 divisé par 6, ça va nous faire 1. Donc il faut attribuer, il y a 4 sièges qui ont été attribués, il nous reste à répartir le 5e siège. Alors, ce qui me fait... Ah, moi, j'avais déjà mis les calculs ici. Je suis désolé. Hop. Donc, nous avons 21 que nous avons divisé par 3 plus 1. Et ici, 6 que nous avons divisé par 1 plus 1. Donc ici, ça va faire 3. Et 21 divisé par 4, 5,25. Donc, le 5e siège de délégué suppléant est attribué à la liste Nangis solidaire humaine et démocratique. Est-ce que j'ai été clair? Il y a des questions?
Deux.
Je laisse Monsieur le maire proclamer les résultats.
Bien, donc, ceux sont donc élus, alors je vais le faire à l'envers, mais ça sera dans l'ordre, puisqu'on va mettre la liste majoritaire en premier et minoritaire en second, mais je vais commencer à l'envers. Donc, sont donc élus délégués titulaires de la conseil municipal de Nangy, Jean-Pierre Gabarou, Catherine Eusdeviès, Serge Saussier. Sont élus également donc, délégués titulaires du conseil municipal de Nangy, Clotilde Lagoutte, André Palancade, Stéphanie Charret, Claude Godard, Anne-Marie Hollas, Pascal Lué, Simone Jérôme, Didier Moreau, Sylvie Galochet, Michel Veux, Karine Jarry, Roger Zipré. Sont élus délégués suppléants, Rachida Mouali, Sandrine Nagel, Mehdi Ben Salem, Daniel Boudet, Alain Véler. Voilà, en sachant que s'il y a un délégué titulaire de la liste Nangy Oxygène qui, pour des raisons, ne peut pas venir voter, c'est Rachida Mouali qui le remplacera dans un premier temps. Mais par contre, s'il y en a deux, et ben on sera obligé de piocher dans la liste de la majorité. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et inversement, si la liste majoritaire utilisait au-delà de ces quatre suppléants, ben c'est Mme Mouali qui serait amenée à voter. Voilà. Pas d'autres. Donc, les collègues qui doivent nous quitter peuvent le faire. Voilà, je rappelle pour la bonne tenue des travaux que M. Moreau donne pouvoir à Charles Murat, qu'Anne-Marie Hollas donne pouvoir à Virginie Salitra, André Palancade à Roger Cipré. Et que Sylvie Delocher a donné pouvoir à Simone Géraud. Et j'ai oublié. Non, c'est bon. Parce que j'ai oublié personne. Et nous avons juste le quorum. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Bon, il est temps qu'on part en vacances. Hein, bien, nous avons donc quelques délibération encore à examiner. Donc je reviens à la 96 avec l'approbation de la convention de projet urbain de partenariat avec la SCCV Nangy des Pâtures du Gué pour l'opération dite des Pâtures du Gué. Donc je passe la parole à Pascal Levé.
Merci Monsieur le maire. Le projet des Pâtures du Gué avance de manière significative et la ville de Nangy propose, en accord avec le promoteur, de mettre en place un projet urbain de partenariat pour cette opération. L'article 43 de la loi numéro 2009-323 du 25 mars 2009 a mis en place le projet urbain de partenariat, le PUP, le PUP, nouvel outil de financement des équipements publics permettant le préfinancement des équipements publics par les propriétaires fonciers, aménageurs et constructeurs. Cette loi a été modifiée par la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi Allure. Le PUP permet aux collectivités compétentes de signer une convention avec les propriétaires des terrains concernés par des opérations d'aménagement, les aménageurs ou les constructeurs, fixant le programme des équipements à réaliser et la fraction du coût de ces équipements répondant aux besoins de l'opération donnant lieu à une participation. Ainsi, un projet de convention du PUP entre la ville de Nangy et la SCCV de Nangy des Pâtures du Gué fixera le périmètre de l'opération, le programme des constructions, le programme des équipements publics à réaliser en régie, en maîtrise d'ouvrage directe par la ville de Nangis, et le niveau de participation mis à la charge de la SCCV Nangis les Peintures du Gay pour la réalisation des équipements publics ainsi que les modalités de versement. La ville de Nangis réalisera en maîtrise d'ouvrage direct des travaux de voirie, notamment la création de la voirie prolongeant l'impasse de la Grenouillère en sens unique, estimation 100 407,95 € hors taxes. L'allée de la gare, qui est un chemin piétonné, pour un montant estimé de 89 968,50 €, ainsi que celle prolongeant le chemin de la gare en double sens, estimation 198 221,15 €, pour un coût total estimé à 388 597,60 €, toujours hors taxe. Compte tenu de l'impact de l'impact de son projet sur le quartier, la SCCV Nangis des Peintures du Gay accepte de participer financièrement à la réalisation de 51,47% de ses équipements, soit 200 011,19 € hors taxes, et en sus 7 192,40 €, correspondant au différentiel entre la TVA et le FCTVA. De plus, l'opération sera exonérée de taxes d'aménagement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce dossier.
Merci monsieur. Est-il des questions, des observations? Juste pour information, l'opération sera dénommée par le promoteur, non pas les Peintures du Gay, mais l'allée Châtel. C'est leur choix. Néanmoins, la voie qu'on va créer s'appellera la rue des Peintures du Gay. On conservera, on proposera, on délibérera, hein, mais bien entendu, mais on proposera de garder à l'impasse, de transformer l'impasse de la Grenouillère en rue de la Grenouillère, et puis pour éviter les changements d'adresse toujours compliqués, donc, l'allée de la gare, le chemin de la gare sans doute restera, alors on discutera, ou chemin de la gare, ou rue de la gare, peut-être chemin de la gare, parce que voilà, c'est pas la rue de la gare qui mais là aussi pour éviter, bon, il y a une entreprise, il y a des personnes, bon, si on devait redénommer toute la voie d'un seul nom, on pourrait sans doute quelques difficultés. Alors, comme on a des ruptures de direction et qu'on a des petites intersections, on peut justifier d'avoir une voie coupée en trois avec trois noms différents. Mais en même temps, on trouvait que les Peintures du Gay, c'était important, parce que c'est quand même une référence cadastrale de pouvoir le conserver. Voilà, mais ça c'est annexe, hein, c'est une petite information que je vous communique.
Oui, monsieur le maire, simplement une petite question, c'était savoir l'emprise des Peintures du Gay, est-ce qu'elle comprend la petite ruelle qui est justement en limite, la ruelle qui part du bout de la rue de la Grenouillère et qui va rejoindre la rue de la Bertouche et qui rejoint aussi à 90 degrés, elle fait 1 mètre, 1,20 mètres de large. Donc est-ce que c'est compris dedans ou pas?
Non, je crois que ça l'est. Je crois que ça ne l'est pas. Dans cette opération, l'opération qu'on réalisera, ça nous permet simplement donc de relier l'impasse de la Grenouillère donc à la rue de la Bertouche, mais en faisant une voie digne de ce nom. Quoi. Oui. On ne touche à rien d'autre. Hein.
Simplement, la question était du fait que s'il y a un projet d'extension du parking, notamment au niveau de la maison de santé, ces deux terrains sont séparés par cette ruelle qui fait un peu plus d'un mètre de large, qui est un passage piéton, qui n'est pas entretenu parce qu'il y a plein d'arbres, il y a plein de trucs, mais est-ce que ça appartient à la commune, à qui ça appartient? C'est une question qu'il faudrait peut-être débattre, voilà, pour voir après.
Je pense que c'est aujourd'hui une propriété de la commune, hein, puisqu'on a, on a des riverains d'ailleurs qui nous demandent peut-être ou de le céder, quoi.
Oui. Parce que, donc, c'est simplement une question à voir pour ultérieurement. Quoi.
Oui, oui. Bon, en fait, c'est pas un chemin piétonnier dont on pense qu'il puisse avoir une véritable utilité.
Donc, de mon temps, on s'en servait très souvent.
Oui, mais oui, à l'époque, mais aujourd'hui, a priori, non. Et puis, bon, voilà. Après, ça va poser des problèmes de sécurité. Puis après, vous allez dire que je fais rien. Donc, voilà, donc, on va fermer.
Le problème, autant le fermer, parce que il y a des gamins qui peuvent aller là-dedans. Maintenant, avec les arbres qu'il y a et tout, ça devient applicable. Il y a des risques. Donc, si ça appartient à la commune, justement, il y a des risques.
Très bien. Je peux mettre la délibération au voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer donc à la délibération 98 concernant des travaux d'enfouissement de réseaux basse tension, d'éclairage public et des équipements de communication électronique avenue du Maréchal Foch. C'est notre délibération SDESM de la journée, je crois. Hein, on s'est dit qu'à chaque séance du conseil municipal, on aurait une délibération SDESM. Hein, voilà. Je donne la parole à Nicolas.
Merci, monsieur le maire. La commune de Nangy envisage de réaliser d'importants travaux de requalification des trottoirs de l'avenue du Maréchal Foch dans sa partie comprise entre le passage à niveau PN41 et le boulevard Victor Hugo. Outre les travaux d'aménagement de voirie et de réorganisation des espaces plantés, d'importants travaux d'enfouissement de réseaux secs, aériens et d'éclairage public seront entrepris. Et la commune en a informé le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, le SDES, propriétaire des réseaux basse tension. La commune, de son côté, est propriétaire du réseau d'éclairage public et de la tranchée aménagée recevant les ouvrages téléphoniques. La commune délègue au SDES la maîtrise d'ouvrage des travaux d'enfouissement du réseau d'éclairage public dans le cadre des travaux de l'avenue du Maréchal Foch. Le SDES, en référence à la convention conclue entre France Télécom et le syndicat intercommunal des énergies de Seine-et-Marne, SIESM, va procéder à la mise en souterrain des équipements de communication électronique par voie de désignation de maîtrise d'ouvrage. Enfin, il est précisé que cette délibération et sa convention financière, qui doivent être approuvées par le conseil municipal au plus tard le 30 juin 2017, nécessitent l'instauration de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité, TLCFE, sur la commune. Elle sera soumise à l'approbation du conseil municipal au second semestre 2017 pour une application au 1er janvier 2018. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la délégation de maîtrise d'ouvrage au SDES dans le cadre des travaux d'enfouissement et de modernisation de l'éclairage public. L'avant-projet sommaire réalisé par le SDES à l'occasion du projet d'enfouissement des réseaux secs et de l'avenue du Maréchal Foch. Le montant des travaux est estimé d'après l'avant-projet sommaire à 155 679 euros hors taxes, participation communale 60%, pour la basse tension à 68 862 euros TTC, participation communale 100%. Pour l'éclairage public et à 79 366 euros TTC, participation communale 100% pour les communications électroniques. Puis d'autoriser le maire ou son adjoint à signer la convention financière et la délégation de maîtrise d'ouvrage.
Merci, monsieur Godard. Je précise en ce qui concerne donc le débat sur l'instauration de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité qui aura lieu donc à la prochaine séance du conseil municipal le 11 septembre, lundi 11 septembre, et qu'au préalable cette question sera abordée par la commission des finances qui se réunira donc le 4 septembre à 18h. Des questions, des observations? Donc, il n'y en a pas. Je propose d'adopter cette délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, la 99, qui concerne donc le maintien de garanties sur prêt OPH 77, Office public de l'habitat 77, suite à un réaménagement de dette. Madame Jérôme?
Merci, monsieur le maire. Maintien de garantie sur prêt au PH 77 suite à un réaménagement de dette. La conjoncture actuelle a permis à l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne, au PH 77, de réaménager une partie de sa dette auprès de la Caisse des dépôts. Sa dette totale s'élève à 319 millions d'euros. Le périmètre de réaménagement est de 79 millions d'euros. Ce scénario permet de dégager une marge de manœuvre de 1,8 million d'euros par an sur 5 ans et un gain de charges financières de 318 000 euros contre 1,22 million d'euros par an et 711 000 euros précédemment. Le vendredi ne me vaut rien. La ville de Nangy a apporté ces dernières années sa garantie sur plusieurs prêts contractés par le PH 77. Ce dernier sollicite donc la ville de Nangy afin d'obtenir son accord sur le maintien de garantie des prêts ci-dessous. Le montant du capital garanti demeure inchangé. Près de 787 823, contrat numéro 1081461 pour la construction de 14 logements allées de la baraque pour une garantie de 100% de la ville, validée par la délibération 2006-161 en date du 9 octobre 2006. Près de 241 970 euros, contrat numéro 1,081462 pour la construction de 4 logements allées de la baraque pour une garantie de 100% de la ville, validée par la délibération 2006-161 en date du 9 octobre 2006. Près de 58 139 euros, contrat numéro 1-114-184, pour l'acquisition et l'amélioration de 9 logements allées de la baraque pour une garantie de 100% de la ville, validée par la délibération 2008-036 en date du 14 avril 2008. Près de 35 552 euros, contrat numéro 1-114-185, pour l'acquisition et l'amélioration de 9 logements allées de la baraque, pour une garantie de 100% de la ville, validée par la délibération 2008-036, en date du 14 avril 2008. Près de 993 756,06, contrat numéro 860-607, pour la construction de 18 logements au 29 rue des Écoles pour une garantie de 50% de la ville, validée par la délibération en date du 16 décembre 1997. Le capital restant dû au 1er janvier sur ces 5 emprunts est de 1,584,022,38 euros. Ah, une fois que j'étais partie, ça allait. Hein.
Merci. Merci, Mme Jérôme, de cette présentation extrêmement précise aux centimes d'euros près. Des questions? Bien. Ben, on continue d'accompagner l'OPH dans cette renégociation. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Madame Jérôme, je vous laisse la parole pour nous présenter la prochaine délibération 99.
Pas m'arrêter comme ça.
Oui, la 100, pardon. Renouvellement d'adhésion au Fonds de solidarité et de logement.
FSL, année 2017, c'est comme chaque année. La loi 2004-809, la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004, a donné pleine compétence au département en matière le Fonds de solidarité logement, depuis le 1er janvier 2005, suite à la délibération du Conseil municipal numéro 2016-mai-076, en date du 24 mai 2016, une convention a été signée avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne pour l'adhésion de la commune de Nangy au Fonds de solidarité et logement pour l'année 2016. Le FSL permet aux familles relevant du plan départemental d'action pour le logement des personnes démunies d'accéder à un logement, de s'y maintenir et ou de bénéficier de mesures d'accompagnement social liées au logement, la SLL. Pour y adhérer, la participation des communes est fixée à 0,30 centimes d'euros par habitant pour toute la commune. Le nombre d'habitants au recensement de l'année 2017 sur le territoire communal étant de 8 660 habitants, la cotisation annuelle est de 2 598 euros. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son adjoint à signer la convention renouvelant l'adhésion au Fonds de solidarité logement pour l'année 2017.
Merci Mme Jérôme. Des questions, des observations? Je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne une convention financière relative à la participation des frais de fonctionnement des équipements sportifs entre le syndicat intercommunal pour le fonctionnement et l'établissement du premier cycle et du second degré du secteur de Nangy, Sivos, et la commune de Nangy pour l'exercice 2017. Monsieur Cyprès, vous allez présenter.
Oui, merci monsieur le maire. La commune est adhérente au syndicat intercommunal pour le fonctionnement des établissements du premier cycle du second degré du secteur de Nangy Sivos. À ce titre, sa contribution s'élève à 53 152 euros pour l'exercice 2017, soit 62% du montant total de 85 700 euros de la contribution des communes adhérentes. Le Sivos participe aux frais de fonctionnement des équipements sportifs de la ville à hauteur de 61 700 annuels pour 2017, en contrepartie de l'utilisation de ceux-ci par le collège. Une convention financière entre la ville et le Sivos est établie afin de fixer les règles de la participation aux frais de fonctionnement. Pour rappel, une demande d'aide auprès du conseil départemental a été faite suite à la délibération 216 de septembre 114 du 26 septembre 2016 en compensation de l'utilisation des équipements sportifs de la ville par le collège. Cette aide s'élève à 33 euros par collégien, pour un effectif total de 706, soit 23 298 euros pour l'année 216. Elle sera renouvelée cette année également en fonction des effectifs du collège. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son adjoint à signer la convention financière entre le Sivos et la commune de Nangy pour l'exercice 2017.
Merci, M. Cyprès. Donc encore cette année, on a cette convention, peut-être encore l'année prochaine, mais je vous rappelle que la décision qui a été prise assez unilatéralement et contre l'avis des élus locaux du conseil départemental de modifier la sectorisation du collège à la rentrée 2018. Nous avions demandé un moratoire d'une année pour pouvoir continuer à en discuter. On nous a accordé le moratoire, mais pas de continuer la discussion. De toute façon, c'est intéressant de travailler en concertation. Donc, à l'entrée de 2018, les communes de La Chapelle-Rabelais, de Saint-Ouen-en-Brie, de La Croix-en-Brie, de Vanvillers et de Saint-Just-en-Brie quitteront le collège de Nangy. Certaines pour aller vers le collège de Provins, un des trois collèges de Provins, et d'autres les deux autres pour la commune du Châtelet. Le collège pardon, du Châtelet-en-Brie, ce qui à terme va complètement assécher la participation de ces communes donc au fonctionnement du Sivos. Bientôt il n'y aura plus que la ville de Nangy dans le Sivos, donc il se rappellera qu'il y a un syndicat intercommunal. Alors pendant quelques temps d'ailleurs, ce qui va poser sans doute des problèmes de transport scolaire, mais tant pis, c'est comme ça. C'est-à-dire que les élèves de ces communes qui ont commencé leur scolarité au collège de Nangy continueront, donc ceux qui sont rentrés, qui rentreront en 6e en 2017 continueront pendant 4 ans. Donc il faudra qu'il y ait deux systèmes de transport solaire qui soient affectés pour ces communes-là. Voilà. Bon, et nous ne savons pas quel sera l'impact sur la sectorisation de ces communes-là, du collège qui sera construit à Jumichatel, dont on ne sait toujours pas s'il sera bien construit avant la fin du mandat de l'actuel président, comme il s'y est engagé à Provins ou même au vœu du maire de Jumichatel, ce qui paraît assez improbable puisque les services du conseil départemental disent qu'on ne peut pas construire un collège en moins de 7 ans. Donc à moins que le mandat du conseil départemental soit nettement prolongé, mais on verra. Et puis si notre nouveau président de la République met en application ses orientations, le conseil départemental risque de ne pas être renouvelé, plutôt d'être dissous, mais à la fin de l'exercice de son mandat. Donc du coup, la compétence collège reviendrait dans ces cas-là à la région. Et, voilà, donc bon, tout ça est bien confus, mais donc on a encore un Sivos qui fonctionne et qui continue donc d'apporter sa contribution donc à l'utilisation des installations sportives et aussi au projet pédagogique. Hein. Donc c'est 13 000 euros accordés au collège pour les sorties scolaires, pour différents projets. Si demain il y a une dissolution du Sivos, il y aura moins 13 000 parce qu'il n'appartiendra pas forcément à la commune de Nangis, qui n'est pas la compétence collège, d'apporter des moyens de fonctionnement pour les projets pédagogiques du collège. Et donc ça risque de faire sacrément défaut aux enseignants du collège. Enfin, pour le moment, on tient encore conformément à la demande de notre perceptrice, donc nous proposons cette nouvelle convention financière. Questions, observations ? Non, je mets aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Et enfin, la 102, fixation des tarifs et droits de place de la redevance d'animation et de publicité et de la redevance déchets sur le marché forain à compter du 1er juillet 2017. Monsieur Cyprien, toujours.
Merci, monsieur le maire. Conformément à l'article 19.2 du traité d'affermage des marchés forains adopté par le conseil municipal en séance du 29 mai 2017, il est proposé de fixer les tarifs des droits de place, de la redevance d'animation et de publicité et de la redevance déchets à compter du 1er juillet 2017 de la façon suivante. Les droits de place pour une hausse de 5%. Sous la halle, les abonnés 1,52 euros hors taxe, pour les volants 1,84 euros hors taxe. Hors de la halle, pour les abonnés 1,31 euros hors taxe, pour les volants 1,73 euros hors taxe. Redevance d'animation et publicité stabilité, c'est-à-dire que c'est le même montant que l'année dernière et l'année précédente. Par commerçant abonné ou non et par séance est fixé à 1 euro. Redevance déchets création pour le mètre linéaire de façade sur l'allée principale transversale ou de passage et pour la profondeur maximale prévue est fixée à 0,28 euros hors taxe.
Voilà. Mètre linéaire. Hein.
Mètre linéaire.
Donc il s'agit d'accords qui avaient été pris notamment à l'unanimité par la commission de délégation de services publics en date du 5 mai 2017. En fonction du choix donc, du nouveau délégataire. Donc une augmentation de droit de place de 5%, en sachant que ce droit de place n'avait pas été augmenté depuis de très très nombreuses années. Et la création d'une redevance déchets, dont le principe est qu'elle peut diminuer ou augmenter selon la production des déchets. Donc, c'est aussi l'idée de faire en sorte que les commerçants essaient de gérer au mieux leurs propres déchets. Moins ils en produiront et plus la taxe diminuera. Hein, puisque ça nous a permis quand même de mettre en place avec le délégataire, où ça va nous permettre, puisque ce n'est pas encore en place aujourd'hui, donc un repli des déchets par un camion avec casier, donc ce qui permettra de ne pas tout mettre un peu en tout venant, mais simplement par catégorie. On met les premières catégories devant, les dernières à l'arrière, mais bien dans des containers, et ce qui permettra quand même quelque chose d'un petit peu plus simple. Après, donc, c'est repris par le Smetum, Hein, donc ce sont des déchets qui sont pesés, qui nous sont facturés. Donc si on peut amener de la sorte, d'une part, à avoir une redevance d'échec qui soit pas en augmentation, mais en diminution, et pour nous, avoir moins de déchets du marché qui sont transportés dans les locaux du Smetum, et bien on pourra ensemble donc faire quelques petites économies. Et donc c'est une façon un peu de sensibiliser les commerçants forains à leur propre comportement, parce qu'autrement, allons-y, hein, on balance tout. Voilà. Des questions, oui.
Simplement, les abonnés, on n'a pas réussi à en avoir.
Alors, les abonnés, c'est un concept qui s'était perdu avec notre délégataire là, que nous n'avons pas. Avec lequel nous n'avons pas reconduit, et dans les engagements effectivement du nouveau délégataire est d'amener à convaincre notamment les alimentaires, parce que c'est quand même eux qui ont la place attitrée et qui demandent d'ailleurs une place attitrée. Or normalement, dans le règlement de tous les marchés, pour avoir une place attitrée, il faut être abonné. Autrement, on a la place quand on arrive. Donc là, on était dans une situation un peu bizarre, puisque du coup, on avait des commerçants non abonnés, mais qui, pour des raisons étranges, avaient quand même leur place. Et puis d'autres qui n'étaient pas abonnés, mais qui n'avaient pas leur place. Hein. Donc bon, il y a besoin quand même de retisser des liens sereins, mais corrects. Et donc, bon, c'est... C'est pour ça qu'on a pensé d'ailleurs qu'il fallait mieux changer de délégataire, parce qu'autrement, quand l'habitude est prise, c'est extrêmement difficile de la changer. Et puis nous avions un vrai problème, c'est-à-dire que là, on va devoir faire évoluer le marché. Pour le faire évoluer, il faut que la commission de gestion du marché, qui est une commission paritaire, donc avec des élus et avec des représentants aussi normalement élus des commerçants, mais élus par les seuls, c'est dans notre règlement, élus par les seuls marchands abonnés. Particulièrement, il n'y a plus de marchands abonnés, on ne peut plus élire qui que ce soit, et donc notre commission ne fonctionne pas. Donc elle doit acter la modification du périmètre, elle doit acter un certain nombre de choses, et donc bon, on a convenu avec le délégataire qu'il lance donc une campagne d'abonnement dans les mois qui viennent, pour qu'à la rentrée de septembre, on puisse être en mesure de faire élire des représentants. Alors, sans doute, le délégataire nous proposera d'élargir la représentation des commerçants, pas aux seuls commerçants abonnés, mais aussi à ce qu'on appelle les volants réguliers, quoi, hein, mais qui, souvent, sont des non-alimentaires, qui n'ont pas forcément intérêt à s'abonner, mais pourtant, ils sont fréquemment là, et donc, qu'on puisse leur trouver une place dans cette commission. Mais ça nécessitera d'abord une modification du règlement, et donc après une représentation après. D'autres questions? Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Et donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions diverses ni de questions orales. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite également à ceux qui vont partir en vacances de bonnes vacances, hein, bien méritées. Et donc on se retrouve en séance du conseil municipal le 11 septembre. Mais évidemment, on aura l'occasion de se retrouver avant, si vous le souhaitez. Demain, nous ouvrons donc l'opération un été à Nangy à 14h dans le parc. Donc, normalement, on y a convié un peu le soleil. On va voir. Et puis bah, les autres jours, il y aura tout au long de l'été de quoi se distraire et s'enrichir à Nangy. Donc vous y êtes évidemment totalement conviés. Je